Seb, comment vas-tu?
Ça va très bien, Émile. Car on part en road trip et on amène notre cabaret des curiosités du web dans plusieurs villes du Québec au cours des prochains mois. Dans ces shows live, on explore de drôles d'histoires qui parfois nous font rire et parfois nous terrorisent. Les histoires changent à chaque show.
Le tout débute à Gatineau le 27 avril dans le cadre du Festival Transistor. Après, on se retrouve à Shawinigan le 13 juin au Wabasso avec nos amis de Côté Sombre. Et le 11 juillet, on se retrouve à Longueuil dans le cadre du Comic Fest à la salle Fanplast. Les billets sont en vente pour tous ces shows-là et d'autres dates risquent de s'ajouter sous peu, donc restez à l'affût.
Rendez-vous au distorsionpodcast.com pour connaître toutes nos dates et vous procurer des billets. Si vous souhaitez que Distorsion passe faire un tour dans votre région, écrivez-nous. On a vraiment hâte d'aller à votre rencontre.
De retour à votre programme principal.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
The family of missing Belgian backpacker Theo Hayes believe they've found new CCTV from the night he went missing. Their discovery prompted police to move their search closer to the hostel the teenager never made it back to.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
En mai 2019, un jeune homme belge du nom de Theo Hayes disparaît à Byron Bay en Australie.
En tentant de retourner à son auberge, le jeune homme emprunte un itinéraire très étrange
qui le mène près d'une plage donnant sur l'océan.
Les enquêteurs concluent qu'il s'agit d'un accident et que Theo serait probablement tombé dans les eaux troubles de Byron Bay.
Cependant, les preuves numériques semblent indiquer un autre scénario.
Est-ce possible que Theo n'était pas seul ce soir-là?
Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Très fébrile. Oui. On est excités, hein? C'est le début de notre saison 7. Puis on commence avec une histoire de disparition très intrigante qui, on espère, peut-être, grâce aux preuves numériques, un jour, on verra le bout de cette histoire-là.
Oui, absolument.
Mais qu'est-ce qu'on boit tout d'abord pour passer au travers de cette soirée?
Ce soir, mon cher Émile, on boit la Juicy IPA de Watford, qui est de la région de Québec, en fait. Elle a un houblon sabreau et citra, très, très délicieuse. C'est dans nos IPA préférés, hein, oui. Les goûts d'agrumes, les agrumes et tout ça. Puis si ça vous intéresse, vous irez voir leur site web. Il est très, très drôle et très, très créatif. Puis c'est une bière de Québec.
Ça va être très bon, ça, mon gars. Aussi, parfois, on regarde nos stats et on trouve des trucs assez curieux. Oui. On voulait donner un shout-out à notre seul et unique auditeur ou auditrice du Venezuela.
Oui. Et si tu te reconnais... Écris-nous.
Oui.
Avant qu'on commence, Émile, je vais parler de Patreon, parce que bon, on est en début de saison. S'il y a des auditeurs, les plus vieux auditeurs connaissent notre Patreon. Si vous voulez les épisodes en avance, des épisodes bonus qu'on appelle les after show, c'est une discussion très cosy entre moi et Émile à la fin de chaque épisode. Vous allez avoir en plus un épisode spécialement pour vous à la fin de la saison, seulement pour les Patreons. Si tout ça vous intéresse, patreon.com/distorsion, on a deux forfaits pour vous. Vous pouvez aller voir.
Oh yes, l'épisode secret, on a toujours hâte d'enregistrer ça.
Oui.
Là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans la disparition mystérieuse de Theo Hayes?
Oui, mais avant toute chose, on souhaite vous parler de NordVPN qui présente l'épisode d'aujourd'hui. Vous le savez, à Distorsion, la vie privée sur le web et la protection des données sont très importantes. C'est pour ça qu'on vous recommande l'utilisation de NordVPN pour protéger vos communications lorsque vous utilisez Internet dans un endroit public. NordVPN vous permet de naviguer sur Internet de façon anonyme, en plus de vous protéger des tentatives de piratage autant sur votre ordinateur que sur votre téléphone intelligent.
En plus de cela, lorsqu'on voyage, c'est toujours pratique d'avoir accès aux sites de nouvelles que l'on fréquente à la maison, de même que les sites de streaming comme Netflix, Disney+, ou Apple TV, ou encore des sites de shopping, sachant que bien souvent, ils sont bloqués dans d'autres pays. NordVPN vous permet donc de naviguer sur les mêmes sites qu'à la maison, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.
Si vous êtes étudiant et que vous fréquentez les cafés Internet ou encore les bibliothèques publiques, ou si même vous êtes parent et vous voulez vous assurer que vos enfants naviguent sur Internet en toute sécurité, NordVPN est pour vous.
En plus, Distorsion a une promo très intéressante. Rendez-vous au nordvpn.com/distorsion pour profiter d'un immense rabais sous une souscription de 2 ans en plus d'un cadeau bonus. Rendez-vous donc au nordvpn.com/distorsion.
Oh oui!
Là-dessus, Seb, sommes-nous prêts à attaquer l'épisode d'aujourd'hui?
Oui madame.
Allons-y. L'épisode de ce soir, Seb, est quand même assez spécial parce qu'il touche à plusieurs facettes de la protection des données. Mm-hmm. Notre vie privée, comment les applications collectent ces données-là. Parce que, d'une part, on le sait, les gouvernements sont très concernés par ça. Mm-hmm. Il y a des problèmes de vol de données à chaque année. À chaque fois, ces données-là se retrouvent sur le dark web ou revendues à quelque part. Puis c'est les citoyens qui doivent faire en sorte de retrouver d'une certaine façon leur identité. Ouais. Mais il y a un problème aussi inverse qui touche les enquêtes à l'ère numérique, qui est le fait que lorsque ces données-là sont protégées, est-ce que ça peut nuire à une enquête? Est-ce que les entreprises ont à divulguer l'information qui est stockée dans leur système?
Oui, puis ça, c'est toujours un enjeu. Puis justement, les entreprises se défendent toujours que si on ouvre une porte une fois aux autorités, bien, on va ouvrir une porte à des groupes terroristes, ça va ouvrir une porte à d'autres personnes. Mm-hmm. En plus d'infliger un bris de confiance entre les utilisateurs et l'entreprise, hein, on va en parler plus tard, là, mais par exemple, à Apple, ont toujours refusé de débloquer des téléphones, même pour des terroristes et tout ça, sous leur motto qui est la vie privée de nos utilisateurs. Puis c'est là que c'est difficile à trancher, hein, la ligne entre le bien-être de tous, même la sécurité intérieure et tout ça, versus nos utilisateurs. Mais surtout, je pense que c'est beaucoup une question aussi de réputation pour laquelle ils sont très, très fermés et que ces données-là sont très, très étanches. Par contre, Facebook et tout ça, ils ont quand même des mécanismes là, qui permettent aux autorités de faire des requêtes et tout ça. Là. Fait ils sont pas toujours transparents, mais ils essaient quand même de collaborer aux enquêtes.
Oui, ils collaborent tout en tentant de protéger leurs utilisateurs et de pas perdre la face en même temps. Mais vous allez voir, l'histoire de Théo Hayes repose beaucoup sur ces données numériques-là, sur les données GPS, sur comment Google Maps a stocké ces données. Puis sans ces données-là, en fait, il n'y aurait pas eu toutes les avancées qu'on va discuter ce soir. Vous allez voir, c'est une histoire quand même assez fascinante. Et puis, je me lance. Théo Hayes est un jeune homme de 18 ans originaire de Belgique. Il habite avec ses parents et sa sœur dans la région de Bruxelles. Théo est un jeune homme de très bonne compagnie, toujours jovial et souriant. Il est toujours prêt à aider les autres. Il vient de terminer l'école secondaire et compte entreprendre des études en ingénierie à l'université. Toutefois, comme bien des étudiants de son âge, il souhaite entrecouper ses études d'un voyage afin de découvrir de nouvelles régions. Ayant déjà voyagé en Europe, il décide d'arrêter son choix sur un pays où il ne s'est jamais rendu, l'Australie. Moi, dans mon cas, Seb, mon voyage d'entre-études, ça a été Daytona Beach, au Spring Break, à une certaine époque, et je pense que je le regrette un peu de mon côté. Est-ce que tu avais déjà fait ça, toi, un voyage inter-études?
Non, j'ai malheureusement pas eu l'occasion, il n'y a pas eu d'opportunité qui s'est présentée dans ma vie pour ça, malheureusement, mais...
T'es pas tant que ça un backpacker.
Non plus, non, moi je fais du glamping.
Théo, grand sportif, a beaucoup d'intérêt envers ce pays, l'Australie, qui comporte des plages paradisiaques, mais aussi des sentiers de randonnée magnifiques et de grands espaces naturels préservés. Il a bien envie de s'évader au cours de ce voyage qu'il fait en sac à dos, toutefois sans trop abuser des bonnes choses. En effet, Théo est bien au courant de la culture backpacking là, qui est bien présente en Australie, où l'esprit de fête amène parfois des abus d'alcool et de drogue, puis parfois même des mauvaises fréquentations. Toutefois, Théo est très rangé et très organisé selon ses proches. Bien qu'il ait un esprit festif, c'est quelqu'un qui est qui a quand même un esprit de fête, qui est très social. Il n'est pas du genre à se lancer dans des projets impulsifs, ni à s'embarquer dans des plans douteux ou risqués. Oui. Il a d'ailleurs beaucoup songé à ce voyage et surtout au fait qu'il devait repousser ses études pour l'entreprendre. Donc, il a vraiment pris ça au sérieux. Malgré cela, comme les voyages forment la jeunesse, Théo est bien déterminé à le faire et à bien vivre ce voyage.
Une autre raison pour laquelle Théo s'intéresse à l'Australie, c'est qu'il y a de la famille là-bas, notamment son parrain Jean-Philippe, qui réside à quelques heures de voiture de Melbourne. Il compte d'ailleurs séjourner chez lui pendant un certain temps en guise d'introduction à ce nouveau pays qu'il connaît peu, en fait. Il y a aussi une cousine, Lisa, sur le continent avec qui il souhaite passer du temps lors de ce voyage. Théo s'envole donc vers l'Australie à la mi-novembre 2018, dans le but d'y demeurer environ 9 mois, le temps d'accoucher.
Mm-hmm.
Il doit être de retour à Bruxelles en juin 2019 car il a des examens d'entrée à l'université qui sont nécessaires pour débuter ses cours. Cette période lui laisse amplement le temps, là, évidemment, de faire le tour du pays, d'y travailler un peu, de rendre visite à sa famille et de se faire de nouveaux amis.
Parce que lui, il y allait assez longtemps là, pour vouloir se trouver un emploi puis faire un peu d'argent là-bas. Là.
Oui, il avait pris un visa de travail, je pense, pour ça. Là. Il arrive donc à Melbourne le 12 novembre 2018 avec un visa vacances-travail en poche. Sa première destination est le domicile de son parrain Jean-Philippe et de sa femme Julia, chez qui il va séjourner quelque temps. La famille réside dans les Otways. C'est une région qui est située dans le sud de l'État de Victoria, à environ 3 heures de voiture de Melbourne, la capitale de l'État. Il va demeurer chez son parrain un peu plus d'un mois et se déplacer à Melbourne à la mi-décembre. Tout au long de son voyage, là, Théo il va communiquer régulièrement avec sa famille, environ 2 jours, via Facebook Messenger ou via WhatsApp, là, l'application encryptée comme on vous a parlé tout à l'heure. Il va prendre plusieurs photos et vidéos qu'il va partager avec sa famille. Fait qu'il est toujours en contact constant, il partage ses photos de voyage, ses vidéos.
Théo passe Noël chez Jean-Philippe et Julia là, dans les Otways, où il demeurera quelques jours. Il va ensuite se déplacer à Sydney, la capitale australienne, pour célébrer le nouvel an 2019 avec sa cousine Lisa. Donc, c'est vraiment un voyage. Non seulement il va visiter des nouvelles contrées, puis il va se faire des nouveaux amis, des nouveaux contacts, mais étant donné qu'il y a beaucoup de familles là-bas, il est déjà bien introduit à différents cercles. Donc, il ne s'ennuie pas du tout. Puis c'est un peu un voyage familial aussi, là. Absolument, après tout. Ouais. Au cours du mois de janvier, Théo va trouver un emploi à l'Open de tennis d'Australie, là, l'événement international qui rassemble tous les grands joueurs. C'est une opportunité vraiment parfaite pour Théo, qui est un fan de sport puis de tennis en particulier. J'avoue que ça doit être un bon emploi.
Mais ça.
À la fin du mois, il part travailler sur une ferme à Shepparton, une petite municipalité située à environ 2 heures de voiture au nord de Melbourne. Il va y revenir quelques jours en février pour repartir cette fois-ci en Tasmanie à la fin du mois. Ça fait déjà à ce moment-là plusieurs mois que Théo est en Australie, mais il lui reste encore beaucoup de choses à faire sur sa liste et beaucoup de régions à visiter. Il va donc partir en road trip au cours du mois de mars 2019 où il va visiter le territoire du nord de l'Australie puis il va passer beaucoup de temps. Il va traverser le pays pour se rendre à Darwin, tout simplement, là, tout au nord, en passant par Alice Springs pour se rendre par la suite à Kakadu, en passant par Litchfield. C'est un rire de Kakadu, ça?
Non, ben c'est tous les noms, là. C'est, je trouvais qu'il y avait beaucoup de noms, ça me faisait rire.
En avril 2019, Théo se dirige vers la région du Queensland, dans le nord tropical de l'Australie, dans le but de se rapprocher de la grande barrière de corail qu'il souhaite visiter. On sait que c'est un endroit, une manifestation naturelle assez impressionnante. Il va ainsi travailler pour une famille à Cairns, une petite ville située dans la même région. Au cours du mois de mai, Théo fait une grande tournée de la côte est du pays dans le but de visiter encore une fois des plages, faire du yacht et du surf aussi. Parce que l'Australie a tellement de régions étant une île qu'il y a des plages de tous côtés. Mm-hmm. Puis tu veux rien manquer, tu veux vraiment tout voir. Puis il fait bien, il est allé longtemps, donc il veut tout visiter. Il sera entre autres sur l'île de Whitsunday, un lieu paradisiaque, mais aussi sur l'île Fraser à Agnes Water et à Noosa Heads, un lieu populaire chez les surfeurs. À partir de là, le 25 mai, il sera à Brisbane, toujours sur la côte est, pour rejoindre ses cousins Lisa et Michael. Il va manger et passer la nuit avec eux. Nous sommes à la fin mai et le voyage de Théo tire déjà à sa fin parce que lui, on se rappelle qu'il veut revenir début juin parce qu'il y a des examens à faire pour se préparer pour l'université. Il lui reste que quelques jours avant de plier bagages et de rentrer à la maison en Belgique. Toutefois, une destination importante manque à sa liste, c'est Byron Bay, le paradis du backpacking, là où se rejoignent les adeptes de surf et les adeptes du mode de vie nomade. Donc le 29 mai, Théo prend donc un bus en direction de la Gold Coast dans le but d'aller visiter Byron Bay.
Le 29 mai précisément, Théo arrive à Byron Bay. Il n'a que quelques jours pour explorer la région puisque, le 3 juin, il doit prendre un bus en direction de Melbourne et ensuite, à partir de là, un vol en direction de chez lui à Bruxelles. Byron Bay est situé sur la côte est de l'Australie. Un peu moins de 10 000 habitants y vivent de manière permanente alors que plus de 2 millions de touristes visitent la ville chaque année. Ça me fascine toujours, ça, c'est les petites villes qui ont des petites populations, mais qu'en mode touristique, ça explose. Là. C'est des millions, c'est quasiment 100 fois plus de personnes. C'est assez incroyable.
Là. Oui, puis Byron Bay a des gros problèmes aussi de je sais pas si je peux appeler ça de la gentrification, mais il y a énormément de propriétaires, extérieurs à l'Australie qui achètent des choses, puis qui les mettent sur Airbnb. Tu as énormément de locaux qui ont été chassés de la ville, en fait, qui n'ont plus les moyens d'habiter dans leur propre ville. Parce que toute une région aussi de Byron Bay qui est un peu un petit Hollywood. Tu as des vedettes qui ont des maisons là-bas, le bord de la côte et tout ça. Donc, oui, c'est une petite ville, mais apparemment très, très gentrifiée, entre autres, par cette culture du backpacking. Mais oui, tu as raison. Moi aussi, ça m'a toujours fasciné qu'ils sont des villes qui sont un peu... ou des villages. Oui. T'en as au Québec, Percé, entre autres, est beaucoup plus petit, mais c'est une ville où il y a très peu d'habitants, mais où l'été, il y a énormément de gens qui passent. À Charlevoix aussi, il y a des villages comme ça. Exact. Mais ça en fait aussi beaucoup des lieux de passage, puis des endroits où c'est parfois difficile de retracer les gens qui y sont passés.
Oui, exact. La région est aussi reconnue pour son grand phare qui est situé à Cape Byron, qui est toujours actif et qui est classé au rang de patrimoine mondial. Depuis les années 60, l'endroit est un incontournable pour les surfeurs qui se rendent chaque année sur les vagues de la côte est, maintenant devenu légendaire. Une communauté nomade, voire hippie, là, de backpackers et de gens à la recherche d'aventure qui s'y rassemblent sur les nombreuses plages, les pubs, les auberges de jeunesse. Il y a donc plusieurs faces à Byron Bay qui lui confèrent un caractère unique. Tous les habitants se connaissent, mais en même temps, personne ne se connaît vraiment en raison des millions de touristes qui visitent la région à chaque année. Par exemple, lorsqu'un crime est commis dans la ville, il n'est pas rare que les criminels s'en tirent facilement puisque le temps que les enquêteurs se mettent sur le dossier, les coupables ont déjà quitté la ville. Ça, c'est clair. Hein? Ça doit être... J'ai pas pris le temps de le faire, mais je serais curieux de voir les taux de résolution de crimes dans cette région-là. Théo prévoit loger à l'auberge Wake Up pendant son séjour à Byron Bay. Il s'enregistre à l'hôtel le 29 mai, à la journée de son arrivée. Cette auberge de jeunesse festive et décontractée, c'est une des destinations préférées des jeunes voyageurs puisqu'elle est propice à y faire des rencontres et elle est située à 2 minutes de la plage là, de Billungill. Le centre-ville de Byron Bay est situé à environ 20 minutes de l'auberge, qui offre d'ailleurs un système de navettes plusieurs fois par jour pour faciliter les venues, les allées et venues là, des voyageurs. Là. Donc, c'est quand même bien organisé.
Oui, puis c'est une ville qui se marche bien. Hein. C'est pas apparemment c'est que quelques kilomètres, donc tu peux la marcher un peu comme tu marcherais un quartier là, dans une grande ville. Oui, il y a un système de navettes et tout ça, mais c'est en dedans d'une demi-heure sans doute que tu peux atteindre le centre-ville à partir d'un petit peu partout. Là. 2 jours plus tard, le 31 mai, Théo va justement utiliser cette navette pour aller acheter de l'alcool au centre-ville dans un magasin d'alcool situé adjacent à un hôtel. Ce soir-là, il y avait un barbecue organisé à l'auberge afin de permettre aux voyageurs de se rassembler et de faire connaissance. Théo se rend au magasin d'alcool avec un ami rencontré à l'auberge, un certain Antoine, qui est lui aussi originaire de Bruxelles, afin d'y acheter une bouteille de rosé. Le duo est alors aperçu par une caméra de surveillance dans le magasin. Théo, lui, dans son cas, est vêtu d'un chandail à capuche noire, d'une casquette Puma grise, de chaussures de sport Adidas grise foncée et de pantalons beige. Vous allez voir, tout ça est très important. Retenez bien ça. Antoine est lui aussi aperçu par les caméras de surveillance et il arbore des cheveux blonds frisés et porte un manteau vert foncé. Vers 19h45, le duo retourne à l'auberge Wake Up au moyen d'une course via l'application Uber. Antoine ne se doute pas à ce moment précis qu'il sera une des dernières personnes à apercevoir Théo ce soir-là. Théo, toutefois, ne va pas s'éterniser à l'auberge, puisqu'après le barbecue, vers 21h35, il retourne au centre-ville de Byron Bay pour poursuivre la fête avec ses amis dans un bar appelé le Cheeky Monkeys. Donc, sa soirée, il passe pas beaucoup de temps à l'auberge en tant que telle, au barbecue. On se demande un peu pourquoi il a fait cet aller-retour-là. Ben, je comprends qu'il voulait être avec les amis, socialiser tout ça. Mais très peu de temps après qu'il soit revenu, déjà que c'était quand même une bonne marche de se rendre au magasin d'alcool, ben, il repart vers 21h35 pour aller au Cheeky Monkeys. Puis, de mon côté, j'ai cherché beaucoup, en fait, sur des commentaires de gens qui sont allés au Cheeky Monkeys pour comprendre un peu quelle est un peu l'ambiance de ce bar-là, puis comment ça se passe. Mais tu sais, les impressions des internautes là, sont très polarisées à propos de ce bar. Tout d'abord, ben, c'est un endroit qui est bien connu à Byron Bay, qui est fréquenté principalement là, par une clientèle de jeunes adultes, surtout des voyageurs et des touristes qui cherchent à faire la fête. Donc, on y sert de la bouffe, mais très, très basic, hein, de la bouffe vraiment de pub, il y a de très mauvaises critiques du menu sur TripAdvisor et ces sites-là, mais en même temps c'est un peu bar sportif, c'est pas tant que ça, mettons une micro-brasserie ou quelque chose comme ça, là. C'est vraiment un endroit où on va faire la fête, souvent il y a un grand line-up à l'entrée, ça rappelle un peu les bars un peu du début des années 2000 avait au Québec, là, tu sais. Des bars on y joue de la musique, tu sais, très top 40 et tout ça, là. Selon plusieurs témoignages, il semble s'agir aussi d'un endroit où il n'est pas rare qu'une bagarre éclate en soirée. Donc, encore une fois, selon les commentaires. Il semble d'ailleurs être coutume pour le personnel de sécurité d'expulser les clients trop intoxiqués. Même que leur barème est assez bas, là, pour expulser quelqu'un, là. Cheeky Monkeys jouit donc d'une réputation très mixte, un endroit parfait pour faire la fête et faire des rencontres où on peut à la fois y trouver des problèmes quand on les cherche. Parce que ça peut déraper aussi entre jeunes adultes qui s'alcoolisent.
Ben oui, absolument.
Comme ça.
Et puis avant que tu poursuives, si vous avez bien vu dans notre bande-annonce, il y a un extrait de Théo que vous pouvez voir, peut-être ceux qui étaient déjà au courant du cas, mais sinon, vous pouvez aller revoir la bande-annonce. On le voit justement dans une genre de SAQ, ben, un genre de magasin d'alcool, là, où ce qu'ils achètent. Donc, petite parenthèse.
Oui, exact. Tout ça, c'est disponible, la vidéo de surveillance. On va reparler tout à l'heure un peu là, des preuves numériques. Bien que selon ses amis, Théo n'aurait pas consommé autre chose que quelques verres de vin le plus tôt en soirée, certains affirment qu'il ne semblait pas dans son état normal au bar. Il était jovial et souriant, comme à l'habitude, mais semblait à la fois être un peu absent du regard. Moins de 2 heures plus tard, sous les coups de 23 heures, après avoir bu 2 verres seulement, Théo est escorté hors du bar par des agents de sécurité pour cause d'ivresse. Bon, on se rappelle, il avait bu potentiellement du vin aussi au barbecue avant. Mais bon, seulement deux verres selon lui. Cet incident là, est bien évidemment très inhabituel pour Théo, qui est un jeune homme très rangé, qui ne fait il se fait jamais expulser des bars, là, Théo Hayes. En plus, là, selon les gardes de sécurité, là, il marchait en vacillant, là, en marchant un peu tout croche. Donc, ce qui est, c'est pour ça qu'il l'aurait sorti. Selon lui, ça pouvait, selon les bouncers, ça commençait à devenir problématique. Mais encore une fois, quand on lit les évaluations de Cheeky Monkeys là, sur des sites comme TripAdvisor ou sur Google, les incidents du genre là, pullulent à propos du Cheeky Monkeys. Il y a plusieurs commentaires qui expriment la frustration des visiteurs ayant vécu des incidents similaires à celui-ci, là, sans même avoir abusé d'alcool. Okay. J'entends par là se faire expulser du bar pour une raison ou pour une autre, là. Donc, il semble que il n'y a pas beaucoup de tolérance là au niveau de l'équipe de sécurité pour les clients qui sont le moindrement ivres. On dirait que je les comprends aussi d'une certaine façon parce que tu sais, t'es dans une petite ville, tous ces gens-là sont des touristes. Souvent, ils ont pas de... Quand t'es touriste et que tu fais la fête, pas que t'as moins de respect envers les endroits, mais peut-être un peu. Tu peux plus ébranler, comment dire, l'ordre établi que lorsque t'es dans dans ta propre ville puis que tu risques de recroiser ces gens-là.
Oui, absolument.
Ça se peut des fois que les égos se frittent entre eux, là.
Oui, ben oui, ben dans la ville de Québec, là, souvent à l'époque, on avait quand les Ontariens débarquaient, quand j'étais dans ma jeune vingtaine, quand ils débarquaient justement dans des bars comme le Dagobert ou des choses comme ça à Québec, on disait toujours qu'ils foutaient le bordel, justement. Mm-hmm. Puis c'est vrai qu'ils foutaient le bordel, puis ils se faisaient toujours expulser parce que justement, ils se contrôlent pas, ils buvaient. Puis surtout en Ontario, là, l'âge légal, c'est 21 ans, puis au Québec, c'est 18 ans. Fait que t'avais des jeunes adultes au niveau du Québec, mais qui étaient pas habitué à boire qui venait. En tout cas, bref, tu as raison, ouais, c'est vraiment ça.
Shout-out aux auditeurs ontariens.
Oui, on vous aime quand même.
Après cet incident au bar, la fête se poursuit à l'intérieur, mais cette fois-ci sans Théo. Et au fil du temps, à mesure que la soirée avance, tous ses amis rentrent à l'auberge et assument que Théo est bel et bien rentré sain et sauf, mais beaucoup plus tôt.
Le lendemain matin, personne n'aperçoit Théo à l'auberge, ni le surlendemain. Sa mère, qui est à Bruxelles, elle est aussi sans nouvelles, mais ne s'inquiète pas tout de suite, sachant que Théo se retrouve parfois quelques jours là, sans avoir accès au réseau cellulaire. Cependant, le 3 juin, Théo doit prendre un bus et quitter Byron Bay pour l'aéroport là, afin de rentrer chez lui. Il a donc des deadlines importants et ses proches s'attendent manifestement à avoir de ses nouvelles là, avant qu'il quitte.
Oui, c'est une journée critique.
Oui. Le personnel de l'hôtel Wake Up ne le voit pas se présenter au check-out ce jour-là non plus, alors qu'il doit quitter l'auberge. Lorsqu'ils vont vérifier dans sa chambre, le jeune homme est absent. Il y trouve tout de même son passeport ainsi que toutes ses affaires, évidemment sauf son téléphone intelligent qu'il avait sur lui. Malgré cela, 3 jours s'écoulent et ce n'est que le 6 juin que le personnel de l'hôtel ainsi que les parents de Théo en Belgique contactent les policiers australiens pour signaler sa disparition. Quand tu es un parent, ton enfant est en voyage et que t'as plus sa trace.
Eh mon Dieu.
Ah, ça doit être tellement angoissant.
C'est... Et surtout dans des moments comme ça, tu sais, tu peux être... Quand tu sais que... Mais je l'ai jamais vécu.
Non, 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 figure,
nos enfants
ouais.
sont trop jeunes.
Oui.
Mais j'imagine, en fait, dans ces moments-là, tu sais, quand tu sais qu'il est stable, par exemple, Théo était chez son parrain
oui,
pendant plusieurs semaines,
plus,
tu t'inquiètes pas trop, puis tu lui fais confiance et tout ça. Mais quand t'arrives des moments où tu dis, OK, là, il faut qu'il prenne le bus, il faut qu'il prenne l'avion le lendemain, ben là, tu, en tant que parent, j'aurais tendance à justement faire des suivis serrés
oui.
pour m'assurer que tout est dans l'ordre. Puis là, quand justement ces jours-là arrivent, surtout que là, il a quitté le bar, puis... c'est le lendemain que tout doit se passer, mm-hmm. ben c'est sûr que je m'inquiéterais comme pas possible.
Ben oui, c'est clair. La mère de Théo avait préalablement, elle, contacté sa cousine Lisa pour vérifier si elle, de son côté, elle avait eu de ses nouvelles, mais sans succès. Elle non plus, elle n'a pas eu de nouvelles. Lisa va commencer à publier des messages sur les groupes Facebook et les forums de backpackers pour faire passer le mot, ce qui est une excellente idée. Mais personne en ligne ne semble avoir eu de ses nouvelles. Son oncle, Jean-Philippe, va vérifier les transactions sur la carte de crédit de Théo pour apprendre que sa dernière transaction, elle remonte au bar le Cheeky Monkey. Donc, le dernier soir où il a été aperçu. Depuis la soirée au bar, il n'y a aucune autre transaction qui a été inscrite au registre de carte de crédit.
C'est louche.
Le 8 juin, des recherches intensives sont lancées par des volontaires, des recherches qui sont organisées par sa cousine Lisa et son oncle JP. Les policiers vont éventuellement déployer toute la cavalerie pour tenter de retrouver le jeune Belge. Des hélicoptères vont parcourir toute la côte australienne. Des équipes de secours en mer vont aussi être déployées afin de sillonner vraiment les environs et effectuer des plongées. Ils ont fait beaucoup d'efforts quand même.
Oui, puis on va y revenir un peu plus tard sur le travail des volontaires puis de toute la communauté qui a collaboré ensemble pour tenter de retrouver Théo. Là, ils ont fait des efforts là, surhumains.
Oui, c'est clair. Le 10 juin, des randonneurs locaux vont se joindre aux recherches ainsi que des patrouilleurs aidés de chiens renifleurs. Malgré tous ces moyens mis en place, toujours aucune trace de Théo. Son père, Laurent, arrive en sol australien le 13 juin et va se joindre aux forces sur le terrain pendant plusieurs jours. Tous les environs vont être scrutés à la loupe. Non seulement toute la municipalité de Byron Bay, mais aussi toutes les plages avoisinantes, les parcs et les boisés. Ils ont vraiment pris ça au sérieux. Là.
C'est pas si grand, Byron Bay.
Non, exact,
plus,
exact.
À la gang, avec une couple de centaines de volontaires, mm-hmm. ben, je veux rien minimiser.
Non,
là,
non,
il y a quand
non,
même
mais,
des forêts, des boisés importants, mais c'est quand même pas Los Angeles à scruter à la loupe. Là.
Le 17 juin, des enquêteurs aux homicides vont aussi se joindre aux recherches. À cette date-là, la famille de Théo va s'adresser aux médias australiens dans un poignant témoignage en suppliant la population d'ouvrir l'œil. Son père, Laurent, va aussi supplier les entreprises comme WhatsApp de collaborer aux recherches, car c'est sans doute elles qui peuvent amener des pistes supplémentaires, étant donné que Théo les a énormément utilisées pendant son voyage. En fait, la clé de sa disparition réside sans doute dans les traces numériques qu'il a laissées derrière lui.
Théo ne sera plus jamais revu après la soirée au Cheeky Monkey. Cependant, on sait que sa soirée ne s'est pas arrêtée là. Son parcours ce soir-là est une énigme complexe alors qu'il se retrouve seul dans Byron Bay. Encore aujourd'hui, on se demande où exactement il se rendait et s'il était réellement seul. Vous allez voir, son trajet est un peu incompréhensible à Théo.
Ouais.
Il semble logique, une fois escorté du bar, que Théo décide de retourner à l'auberge à pied. Celle-ci est environ à une vingtaine de minutes du Cheeky Monkeys. Il s'agit donc d'un plan parfait pour dégriser, du moins selon moi.
Ouais.
Il est important de souligner aussi que ce soir-là, la météo était une des plus froides jamais enregistrées pour un soir de mai à Byron Bay, avec une température oscillant entre 5 et 9 degrés Celsius pour des normales autour de 15 et 20 degrés.
Oh, okay, ouais.
Donc, c'est, on s'entend, là, un frigo, c'est à 4 degrés
oui,
généralement.
Exact, exact.
Donc, c'est des températures qui sont assez basses. Donc, c'est pas non plus, on va y revenir plus tard, mais une soirée où tu irais te baigner dans la mer, mm-hmm. par exemple. Théo est aperçu là, par des caméras de surveillance au centre-ville de Byron Bay, marchant seul, d'un pas rapide, le regard sur son téléphone, vêtu là, du même chandail à capuchon, pantalon beige et casquette Puma que plus tôt en soirée. Donc, on l'aperçoit en sortant du bar Cheeky Monkeys. Il se dirige à pied, il a le téléphone à la main. À partir de ce moment précis, toute la chronologie des événements est dictée par les données cellulaires tirées de son téléphone, notamment là, ses recherches sur Google Maps.
Oui.
Et sur cette vidéo-là, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Seb, elle dure seulement 5 secondes, à peu près.
Ouais.
Elle est très courte. On voit Théo marcher, mais ça n'a pas l'air d'un gars qui est confus ou qui est ivre ou je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses.
Ou frustré de s'être fait mettre dehors.
Même pas, non, exact.
Il a l'air relax, il regarde son téléphone, sa démarche semble normale aussi. C'est vrai qu'il ne lève jamais les yeux. Parce qu'il y a des gens, des fois, quand ils sont frustrés, je sais qu'ils focusent sur leur téléphone pour se changer les idées et tout ça, là. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun comportement anormal. On dirait qu'il est juste sorti du bar, tout simplement.
Tu veux dire qu'il n'y a aucun comportement anormal?
Oui, anormal. Oui, c'est ça.
Oui,
ah, okay, j'ai peut-être dit l'inverse.
Non,
ouais.
On comprend. Mais exactement. Puis quand on voit ça, on pourrait penser, parce qu'il passe devant une genre de voiture, une genre de caravane,
oui.
Il pourrait se retourner, regarder en direction du bar, faire un signe de frustration, mm-hmm. comme tu disais, lever les bras dans les airs ou quoi que ce soit. Mais non, il est très calme. Si tu regardes un peu l'espace entre ses pieds quand il fait des pas, c'est très régulier, donc
oui,
ça semble pas... il dévie à un moment donné un petit peu dans sa trajectoire, mais en même temps, il a les yeux sur son téléphone.
Ouais,
ça prend moins de 30 secondes à la sortie du bar qu'il est déjà sur son téléphone à regarder sur Google Maps. Donc, on voit qu'il était, il était déjà prêt à passer à autre chose puis à rentrer potentiellement à l'hôtel.
Oui, exact. Mais le fait aussi que les gens disaient qu'il semblait absent... Je me suis demandé si durant la soirée, il n'y avait pas eu une discussion par texto et tout ça avec quelqu'un, puis que, je veux dire, dans le sens que en sortant...
Ça l'avait préoccupé.
Oui, ça
peut-être.
L'avait préoccupé aussi. Peut-être quelqu'un qui a rencontré une fille ou quoi que ce soit. Puis je me suis posé la question s'il n'allait pas par la suite rejoindre quelqu'un.
Oui, hein, peut-être, oui.
Rejoindre quelqu'un, puis, mais ça, c'est écarté, là, dans le sens qu'on n'a pas d'indice ou quoi que ce soit.
Les gens sur place ont témoigné à un certain moment que Théo avait eu une conversation avec une fille dans le bar
Cheeky Monkeys, vrai, exact, oui.
Même que ce serait montré insistante.
Okay.
Donc, insistante, comment, c'est dur à dire. Mais bref, Théo aurait quitté, puis cette fille-là serait toujours dans le bar à ce moment-là.
Mm-hmm.
Donc, à savoir, il y a peut-être une piste là, mais oui, il aurait eu une interaction avec une jeune femme là, à l'intérieur du bar, apparemment. C'est sa mère, là, Vinciane, qui, elle, est toujours en Belgique, assistée de son parrain JP, qui, lui, est en Australie, qui vont réussir à recouvrir là, son compte Google en tentant à maintes reprises différents mots de passe de récupération sur son compte.
Oui.
Puis, ils vont en trouver un. Enfin, ils vont réussir à avoir un mot de passe puis à récupérer le compte Google de Théo. Puis, on s'entend que le compte Google, c'est celui que tu veux le plus récupérer. Parce qu'évidemment, tu es branché sur tes courriels, non seulement ça, mais sur tes recherches YouTube, tes recherches Google, ton historique Google Maps, évidemment. On y arrive parce que vraiment, Google Maps a joué un rôle important dans tout ça. Mais une fois que tu es connecté sur Google, tu as accès à une tonne de choses.
Oui. Puis il log, il enregistre tout ce qu'on fait. Là.
Ah oui. Étrangement, après avoir quitté le Cheeky Monkeys, Théo ne se dirige pas vers son auberge. Il marche plutôt vers le sud, sur Johnson Street, malgré le fait qu'il a bien entré l'adresse de l'auberge dans Google Maps. Et on va le voir, le Théo va rechercher souvent son auberge, l'auberge Wake Up, dans Google Maps pendant les heures qui vont suivre. À 23h07, Théo commence à s'éloigner du Cheeky Monkeys. Un peu plus d'une minute plus tard, il s'arrête pendant une minute sur Kingsley Street et entre l'adresse de son auberge dans Google Maps une deuxième fois, donc 7 minutes environ après avoir quitté le Cheeky Monkeys. Il continue ensuite à marcher pendant 4 minutes là, et 40 secondes à une vitesse moyenne d'un peu plus de 7 km par heure, ce qui est quand même rapide. Oui. Et vous allez le voir, tout cet itinéraire-là de Théo se fait très, très rapidement, c'est-à-dire à un pas déterminé. Au bout de Tennyson Street, près de la lisière, là, il y a un certain boisé, il y a une brousse là, qui entoure un centre d'activité pour jeunes à Byron Bay, là, sur cette rue-là. Il va s'arrêter là, là pendant près de 7 minutes. Il y a ici là, des filets de cricket et il y a une grosse dalle de béton. Et puis, les données Google montrent que le téléphone de Théo se trouvait là à moins de 3 mètres de cet endroit. Donc, c'est assez précis pour suggérer là, un radius de 3 mètres autour d'un lieu. Donc, c'est un endroit, c'est pas un parc, mais c'est apparemment que c'est un champ de cricket. Puis, il y a cette dalle de béton-là. Donc, c'est pas un endroit que tous et chacun fréquente à chaque jour, mais il y a des gens qui jouent au cricket qui se retrouvent là. Mais il va y passer 7 minutes, ce qui est quand même long lorsque tu marches seul, en fait, à cette heure-là. Et là, c'est dur à expliquer en audio hein, une trajectoire, mais pour vous faire un peu un dessin, là, sachez que, mettons là, qu'on simplifie ça, Théo il est environ au centre de la ville sur une carte. Byron Bay est vraiment dans un coin de l'océan. Là, donc, tu as autant le nord et l'est, en fait, qui est couvert par l'océan en haut et l'océan à droite, vers l'est. Et puis, l'auberge de Théo est vraiment à l'extrême gauche là, du centre-ville de Byron Bay, mais lui, il se dirige vraiment vers la droite. Donc, toutes les rues qu'on vous nomme, là, c'est dur, ça vous dit absolument rien, je le sais, mais c'est pour dire qu'il se dirige dans la direction complètement opposée là, à son itinéraire vers l'auberge le Wake Up. À 23h21, nous supposons qu'à partir d'ici, là, les mouvements du téléphone de Théo correspondent aux mouvements de Théo lui-même là, et qu'il n'a pas été séparé de son téléphone. Donc, il quitte la fameuse dalle de béton derrière les champs de cricket au bout de Tennyson Street et il passe de l'autre côté du terrain de sport. Et là, il serpente dans des rues qui ressemblent un peu à des rues de banlieue jusqu'à Massinger Street. Et d'après les données de Google, il a parcouru là, ce tronçon à près de 6 km par heure et a consulté Google Maps plusieurs fois en chemin. Donc, et la carte là, indiquait toujours le chemin de retour vers son auberge. Oui. Donc, malgré le fait que son itinéraire était fixé, Théo, lui, continuait d'aller dans la direction opposée, mais pas en ligne droite, là, vraiment en se promenant dans les rues là, d'une manière...
On dirait qu'il explorait.
Oui, comme s'il explorait. Mais des fois, quand on regarde l'itinéraire, il semble revenir sur ses pas aussi.
Oui, c'est vrai.
À partir de Massinger Street, Théo emprunte des petites rues jusqu'à Milne Street, où justement un peu les rues de banlieue prennent fin, et là où on trouve une clairière qui donne sur le parc national d'Araqual, et qui, lui, ce parc-là, mène vers l'océan, et le fameux phare dont tu nous parlais tout à l'heure, Seb, qui est à la pointe de Byron Bay, sur une immense falaise. Et à partir de là, son trajet le devient vraiment mystérieux, parce que là, c'est comme s'il quittait les rues normales avec des maisons et des voitures et tout ça, il emprunte un genre de boisé dans un parc national. Mais là, on est à 23h, presque 23h30, donc il fait noir, c'est pas éclairé ces endroits-là. Oui, c'est vrai, hein. Donc là, c'est dur de croire qu'il s'en allait toujours à l'auberge parce que il arrive au bout de la rue, il arrive devant un boisé, puis il fonce littéralement dans le boisé. Donc, Théo prend la piste de Mile Track, en fait, qui est une piste là qui commence, qui est asphaltée et qui, à un certain moment, devient une piste un peu plus de randonnée, mais qui est quand même facile à suivre, qui se rend directement à Tallow Beach, qui est la plage l'autre bord de ce parc national-là. Mais il s'engage là, sur une piste de brousse qui se dirige vers le nord. Et là, il sort de la fameuse track. Là. Et pour avoir vu des photos, cette piste-là, c'est des lianes. On est pratiquement dans la jungle. Il faut vraiment connaître le coin pour pouvoir se diriger là-dedans en pleine nuit, on se rappelle.
Oui, en plus. Ouais.
On est en pleine nuit. Puis là, il va à une vitesse moyenne, selon Google Maps, de 7,5 km par heure, là, ce qui est une vitesse de jogging.
Oui, 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 exact.
T'es pas sur une rue asphaltée, là, t'es dans la brousse, là, t'es au travers les branches et les lianes, là, sur un terrain très difficile. Donc, c'est très bizarre. Et Théo traversait donc là, ce parc national très rapidement dans l'obscurité totale. Et là, il s'arrête et regarde à nouveau l'itinéraire vers son auberge sur Google Maps et il se dirige encore une fois dans la direction opposée, vers la droite, encore plus loin dans la brousse.
Comme s'il se sauvait aussi. Tu fonces dans les bois en courant. Je sais pas s'il se sauvait de quelque chose ou de quelqu'un.
Oui, s'il était en danger.
Oui.
J'ai pas forcément l'impression, mais on va y venir. Ouais. Vers 23h48, Théo atteint Tallow Beach, finalement, là, en sortant de la brousse par un petit chemin. Il a traversé le fameux boisé là, du parc national. Juste à côté de la sortie se trouve un camping. Il regarde à nouveau sur Google Maps l'itinéraire vers son auberge. Et Tallow Beach, pour dire quelques mots, là, c'est une très grande plage là, sur la côte de Byron Bay. C'est un endroit qui est assez calme, en dehors de la folie là, du centre-ville de Byron Bay. C'est assez tranquille, peu éclairé. Toutefois, c'est pas rare là, que des feux de camp ou encore là, des petites fêtes qui s'organisent entre locaux, même entre voyageurs. Il y a même des gens qui campent sur la plage. Donc, il est sans doute pas seul sur cette plage-là, du moins, même si c'est peu éclairé. Le jour, c'est un endroit où les gens vont aller faire marcher leurs chiens, par exemple. Théo marche ensuite jusqu'à Cozy Corner, qui est à l'extrémité nord de la plage. C'est un genre de petit coin là, près du... Il y a le phare qui surplombe la falaise, et puis il y a l'océan des deux côtés. Et là, il marche à moins de 6 km par heure, donc il a ralenti son pas. Juste avant minuit, Théo quitte la plage de Cozy Corner et s'enfonce dans ce qu'on appelle le bushland, donc dans le boisé, en direction d'une colline escarpée où poussent le d'épais buissons et même des lianes. Donc, entouré d'un enchevêtrement de vignes, pardon, et protégé du monde extérieur, Théo s'arrête pendant 5 minutes et demie. Donc ça, c'est drôle. Il est sur le bord de la plage, il y a l'énorme cap qui mène vers le phare, et il décide de monter là-dedans. Comme si il avait regardé son Google Maps vers son auberge, puis il s'est dit quel est le moyen le plus direct de me rendre.
Exact.
C'est de foncer par là. Puis il a essayé, il a monté, et puis il s'est arrêté pendant 5 minutes, et puis il est redescendu vers la plage en moins de 2 minutes. Donc, il a abandonné, il est retourné sur la plage. C'est quand même bizarre. Ça, des fois, je me demande, est-ce que quelqu'un a lancé son téléphone là-dedans puis est allé le rechercher? Je sais pas. Est-ce que c'est un bug aussi de Google Maps qui l'a géolocalisé dans le cap?
C'est rare. En plus, ils sont très, très bons. Là. C'est des données GPS... C'est étrange. Ben, t'sais, il a peut-être juste rebroussé chemin et s'est rendu compte que son plan de peut-être prendre un raccourci pouvait pas fonctionner. Hein. C'était peut-être super à pic et tout ça. Là, donc, puis en revenant, ben, vu qu'il montait, ça va plus vite. Là, donc c'est peut-être pour ça aussi.
Non, moi aussi, je crois qu'il est véritablement monté, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a pris, mais il est vraiment foncé dans le boisé. À minuit 5 maintenant, le suivi GPS de Théo là, par Google prend fin. Et d'après Google, à ce moment-là, Théo se trouvait à Cozy Corner, dans le coin près du boisé où il est monté vers le phare. Minuit 20, Théo envoie à un ami là, un message à propos du groupe U2 via Messenger sur son téléphone. Puis là, vous allez voir, à minuit 23, il va même regarder pendant quelques minutes là, le début d'une vidéo comique Burger Quiz sur YouTube, mais seulement quelques minutes. Donc, c'est pas les comportements d'un gars en danger,
oui,
on dirait.
Oui, stressé et tout
ça. On parlait tantôt, est-ce qu'il se sauvait dans le boisé? Ouais. Ben, tu sais, quelqu'un qui envoie un message à propos de YouTube à son ami, puis que par la suite, on regarde une vidéo YouTube, puis c'est une vidéo belge, en fait, comique, francophone. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre qui a volé son cellulaire puis qui a regardé YouTube, selon moi, du moins, à cette heure-là. Donc, quand même, drôle de comportement. Minuit 55, Théo envoie un message WhatsApp à sa demi-sœur qui est, elle, en Belgique. Il s'agit d'une réponse à un message précédent d'Emma, donc sa sœur, avec un emoji de baiser et un mot en français « merci ». Et ça, c'est intéressant aussi parce que c'est le dernier message WhatsApp qu'il a envoyé dans cette conversation-là. Et en même temps, les policiers n'ont jamais révélé quels étaient les messages d'avant.
Oui.
Et on sait que ça s'est terminé par « merci » avec un baiser. Donc, sans doute que c'était une conversation positive. Si c'était quelqu'un qui était en détresse, ça serait peut-être autre chose, en fait.
Oui, ça se terminerait pas comme ça, en fait.
Exactement. À minuit 56, Dernière heure d'utilisation enregistrée du compte WhatsApp de Théo. À cette heure-là, le téléphone de Théo va aussi entrer en contact avec un autre téléphone à proximité. On va en parler tout à l'heure de ce fameux handshake. Mais par contre, là, on se transpose à 13h42 le lendemain. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé pendant le reste du temps, le reste de la nuit, même le début de la journée du lendemain. Mais vers 13h42, c'est le dernier signal de son téléphone portable qui est détecté dans les environs là, de Cape Byron. Donc, il est détecté pas à Cozy Corner, mais de l'autre côté sur l'autre plage. Et en fait, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune trace numérique de la part de Théo. C'est le dernier signal émis par son téléphone. Par contre, c'est pas là que l'histoire se termine, mon cher Seb.
Absolument pas. Le 30 juin, la police belge débarque à Byron Bay pour collaborer aux recherches avec les autorités australiennes. C'est aussi autour de cette date que les proches de Théo vont créer un groupe de recherche sur Facebook pour permettre à tous de soumettre des indices. Les internautes vont aussi avoir le bon réflexe de regarder les tags de lieux sur Instagram pour voir s'il n'aurait pas publié des photos et des vidéos à partir de Tallow Beach cette nuit-là. Très bon réflexe. Il y a évidemment quelques personnes qui ont publié en taguant la plage. On y voit des feux de camp, des gens qui observent le lever du soleil. Par contre, aucune piste concrète ne découlera de ces recherches. Le 3 juillet, la police belge quitte Byron Bay et du même coup, la police australienne arrête les recherches à grande échelle. Selon eux, la théorie la plus probable est celle d'un accident et Théo serait sans doute tombé de la falaise près du phare dans les eaux troubles de l'océan. Parce que c'est vrai que ça brasse, là. Tu sais, c'est un océan. Dans le sens que si tu tombes, on peut ne jamais te
retrouver.
C'est
dangereux, là, oui. Ça, c'est clair.
Ils affirment tout de même que l'enquête n'est pas bouclée et qu'ils sont toujours à la recherche de pistes. Le 7 juillet, des volontaires qui effectuaient toujours des recherches trouvent une casquette Puma grise avec le logo blanc sur le devant dans le boisé près de Tallow Beach où Théo aurait bifurqué. Malgré que les résultats de tests d'ADN n'ont jamais été révélés au public, la famille affirme qu'il s'agit bien de la casquette de Théo. Elle avait les mêmes déchirures présentes au même endroit. Cette preuve est cruciale car elle place carrément Théo sur son itinéraire GPS en nous indiquant qu'il était toujours en possession de son cellulaire lors de cette marche dans les bois. Hélas, après cette découverte, aucun indice concluant ne se présente au cours des recherches malgré un grand effort de la part des internautes. Il y aura d'ailleurs un podcast qui a été lancé sur l'affaire qui s'appelle « The Lighthouse » qu'on vous suggère fort d'écouter là, si l'affaire vous intéresse.
Oui, tout à fait. C'est carrément un podcast avec plusieurs épisodes sur le sujet. Là. Il a été fait très tôt quand même après la disparition de Théo. J'ai pas regardé si on fait des mises à jour récemment, parce que vous allez voir, c'est quand même une histoire qui a connu une mise à jour très importante au cours des dernières semaines. Mais oui, moi, je trouve que le réflexe des internautes de tout de suite aller voir le lieu sur Instagram, Tallow Beach, puis de regarder les photos qui ont été publiées, ça peut donner, des fois sur les photos, tu peux voir des individus qui sont tagués. Ouais. Exact. Et tu peux les questionner pour savoir est-ce que vous avez vu Théo. Donc, je ne sais pas à quel point ça a été pris au sérieux par les policiers, ces informations-là, parce que selon moi, c'est crucial.
Oui, ben oui, tu peux, des fois même, tu peux voir quelqu'un dans un fond de photo, trouver des témoins, un peu comme tu dis, là, puis les policiers peuvent après ça remonter, mais j'ai des doutes, on dirait, qui ont suivi cette piste-là. En tout cas, du moins, ils n'en ont pas parlé, les autorités en tant que telles.
Mm-hmm. Parce qu'il y avait toujours l'hypothèse, en même temps, on revient sur la découverte dont tu viens de nous parler, de la casquette Puma grise.
Oui.
Il y a toujours l'hypothèse que peut-être que Théo s'est fait braquer dans la rue puis que quelqu'un est parti avec son téléphone.
Oui, mais là,
sachant que la casquette, qui était un peu déchirée, se retrouve dans le boisé où il a bifurqué, ben, ça montre que c'était toujours lui qui avait son téléphone à ce moment-là parce que c'est cohérent avec les données GPS.
Oui. Bien, quand on additionne en plus les messages personnels, c'est l'addition de tout ça. Parce que la casquette toute seule, quelqu'un pourrait la prendre.
Bien sûr.
Il vole son téléphone, il prend la casquette. Mais là, avec les conversations de YouTube, avec sa sœur, sa demi-sœur et tout ça, là, on dirait que ça confirme en fait le fait que c'est sûrement lui qui avait la casquette.
Donc, malgré le fait là, qu'il n'y a pas eu de nouvel indice concret, mon cher Seb, l'histoire ne s'arrête pas là. Vous allez voir, là, bien au contraire. Quelques semaines après la disparition de Théo, un des volontaires aux recherches trouve un gros bâton tribal dans les environs de Tallow Beach. Pour avoir vu une photo, c'est une grosse branche d'arbre avec du duct tape là, enroulé au bout là, pour un peu créer une poignée. Et le bâton, là, il est vraiment sale. Il semble avoir du vécu et on semble même apercevoir du sang dessus. Et selon la personne qui a trouvé le bâton, la personne a pris une photo et l'a publiée sur Instagram. Elle le dit clairement, là, il y a du sang au bout. Et même à l'œil nu, quand on regarde la photo, on peut le voir. Les policiers vont jamais confirmer si le sang en question est celui de Théo, par exemple, ou de quelqu'un d'autre. Mais encore plus sinistre, là, écoute bien ça, il est inscrit « The Judge » sur le bâton. Oh. Comme s'il s'agissait là, d'une arme de jugement. Ouais. Là, puis elle est quand même assez grande. Là. C'est plus grand, ben, selon moi, là, selon les proportions, ça semble être plus grand qu'un bâton de baseball Là. Donc, il y a certainement des dommages à faire avec ça. Donc, est-ce possible que ce bâton ait servi là, cette fameuse nuit du 31 mai? C'est une bonne question. Ouais. J'espère qu'on s'en est pas servi sur Théo. Autre chose aussi, là, il faut pas oublier qu'une certaine communauté nomade là, existe dans les environs de Byron Bay. Et certains crimes, là, même des disparitions, surviennent à chaque année. On dit aussi qu'il y a une certaine population là, de meth heads, là, de junkies au crystal meth là, autour de ça. Donc, il y a des gens vraiment qui sont prêts à faire bien des choses pour leur dose quotidienne. Il y a aussi eu une disparition notoire quelques semaines après la disparition de Théo, dans des circonstances vraiment similaires, là, j'ai pas le choix de vous en parler, c'est une femme de 42 ans, du nom de Thea Liddle. C'est une femme qui fréquentait là, souvent des campements de hippies autour de 2019. Donc, elle semblait pas avoir de domicile fixe. Ça semblait pas être une itinérante non plus, mais ça semblait être quelqu'un qui avait un mode de vie nomade.
Ben, les policiers disaient qu'elle était en transition de vie.
Oui, si on veut. La femme n'avait pas été reportée disparue. Là, elle a été reportée disparue pas sur le coup, mais plusieurs mois plus tard, puisque sa famille était habituée de pas recevoir de ses nouvelles. Donc, ils ont attendu à la fin de l'année 2019 pour déclarer sa disparition. Ce qui est pas très, c'est sûr que c'est long, là, plusieurs mois dans un cas de disparition. Là. Et puis là, ce qui est intriguant autour de ça, c'est que pendant les recherches pour retrouver cette Théa, les enquêteurs ont trouvé des ossements tout près d'où le téléphone de Théo a été en activité la dernière fois.
Ouais.
Donc ça, c'est louche un peu. Par contre, ces ossements ne sembleraient pas être ceux de Théo, selon les autorités. Mais est-ce possible qu'il y ait un meurtrier en série qui sillonne les plages de Byron Bay à la recherche de victimes? C'est inquiétant.
Ben, ça se pourrait avec les meth heads, comme tu dis, ils peuvent faire à peu près n'importe quoi quand tu as besoin de ta dose, là, donc.
Ouais, et surtout qu'il y a un bâton qui a été trouvé. Ben il y a plusieurs circonstances. Ouais, il y a plusieurs, comment dire, preuves circonstancielles qui nous indiquent qu'il y a peut-être eu de la violence à Tallow Beach, tu sais. En décembre 2019, autre chose encore une fois, une certaine Lisa Horn, qui est une résidente de la région, contacte les policiers après avoir eu vent de l'enquête pour rapporter un étrange témoignage. Elle affirme que deux jours après la disparition de Théo, elle a aperçu un autostoppeur sur la route à quelques kilomètres de Byron Bay qui se tenait debout devant un homme étendu au sol, gisant comme s'il était mort. Ce qui lui a sauté aux yeux, c'est que l'homme portait des pantalons de couleur pâle, comme Théo portait ce soir-là. On se rappelle, il y avait des pantalons beige, qui peut donner un peu l'impression qu'il y avait des pantalons blancs. Puis, c'est quand même un peu rare des hommes qui portent des pantalons beige et blancs. Là. Tu sais, tu le remarques quand ça arrive. Là.
Oui, ça contraste, en fait.
Ben oui. Sur le coup, elle affirme qu'elle avait eu trop peur pour s'arrêter puis vérifier parce que, bon, elle était seule au volant.
Ben, je peux comprendre.
Tout à fait. Un autostoppeur, quelqu'un qui a l'air... qui a l'air mort à côté. À ce moment-là, elle devait penser que la personne était peut-être intoxiquée ou que, je sais pas, elle était saoule morte, là, tu sais. Mais pourquoi a-t-elle pas contacté les policiers plus tôt? Ben, en fait, c'est simple, c'est qu'elle n'avait pas entendu parler de l'histoire de Théo avant ça, donc elle le savait pas. Puis plusieurs mois plus tard, ben, elle a vu un reportage à la télé australienne, elle a vu les images des caméras de surveillance, elle a vu les pantalons de Théo, puis c'est là qu'elle s'est dit, ah ben, deux jours après, j'ai quand même vu quelque chose qui pourrait être un tuyau intéressant. Mais encore une fois, cette piste n'a pas débouché, là, malgré qu'elle soit inquiétante. Bon, il y a peut-être un crime qui a été commis que les policiers n'ont même pas eu vent.
C'est ça, on n'a pas eu de nouvelles. Hein. Ben, je veux dire, il n'y a pas eu de piste par rapport à ces gens-là qu'elle a vus. On ne sait rien. Hein. C'est ça de ça.
Non, rien de connu actuellement. Ouais. Et maintenant, là, en juillet 2020, un rebondissement assez inattendu survient. Écoute bien ça, Seb. Ouais. Un homme de la région de Byron Bay contacte le site web de recherche pour Théo, que la famille et les proches ont mis en ligne, en envoyant un courriel extrêmement troublant là, via le bouton pour envoyer un courriel là, tout oui. Candidement. Et il affirme avoir entendu là, dans un bar de Byron Bay deux hommes discuter du meurtre de Théo. Et là, il affirme que les deux hommes ont expliqué que Théo avait été assassiné et que son corps aurait été enterré près de Nimbin, une ville à 60 km de Byron Bay, dans une communauté de junkies. Et là, c'est pas rien, là, il a entendu ça dans un bar.
Ouais, ouais.
Et là, les policiers ont pris la chose très au sérieux et ils se sont dirigés là, vers le lieu en question. Et là, check bien ça, ils ont trouvé dans cette espèce de communauté de hippies et de junkies-là une maison complètement délabrée avec énormément d'effets personnels là, répandus partout sur le plancher. Ouais. Là, t'sais. Et là, ils ont trouvé une valise pleine de vêtements et d'effets personnels. Et valise qui appartenait à qui vous pensez? Non pas à Théo, mais bien à Thea Liddle, donc la femme de 42 ans disparue quelques semaines après Théo à Byron Bay. Quel revirement! Et en plus, c'est pas terminé. Lorsqu'ils ont fouillé là, les boisés avoisinant cette maison-là, ils ont retrouvé les ossements de la jeune femme. C'est fou là, à quel point les deux histoires sont liées par le destin. Ouais. En plus, ils ont presque le même nom.
C'est
fascinant. Donc, check bien ça, le Inception, en cherchant pour Théa, les policiers ont trouvé des ossements qui auraient pu appartenir à Théo. Ouais. Et en cherchant pour Théo, ils ont trouvé les ossements de Théa disparus plus tard. Donc, il y a comme quelque chose qui lie les deux histoires. Ouais. Vraiment, c'est fou. Moi, j'en reviens pas encore. Quand j'ai vu cette information-là, j'ai sauté de ma chaise.
Ouais, moi aussi, ça m'a jeté à terre parce que c'est quoi les chances?
Ben oui.
Exact, mais moi, j'ai l'impression que c'est autour de ça qu'on va y revenir, là, mais que ça a un élément, c'est crucial, en fait, tout ça. Là.
Ah oui, tout à fait. Mais est-ce possible que l'homme au bar ait entendu Théa au lieu de Théo dans la conversation? Ou est-ce possible que Théo ait connu la même fin atroce que la femme, mais c'est juste qu'ils n'ont pas retrouvé ses effets personnels parce que Théo n'avait pas de valise sur lui, il n'avait pas, pas été pillé, tu sais. Donc, ça m'étonnerait qu'on trouve des effets personnels à lui dans cette maison-là, mais peut-être qu'il y a des ossements de lui qui n'ont juste pas encore été trouvés. Là. Donc, c'est très inquiétant, cette espèce d'histoire-là, mais ça se peut que ça augure mal, en fait, là, vu de ce côté-là pour les recherches. Et là, on se transporte là, il y a quelques semaines seulement, en septembre 2021, donc au début de notre saison, au début de l'enregistrement de notre saison, et nous, on n'avait pas prévu ça du tout, en fait, parce que ça fait plus d'un an qu'on travaille sur cette histoire-là. Mais l'émission Under Investigation, qui est diffusée en Australie, a fait un épisode spécial là, avec certaines nouvelles infos à propos de Théo, avec la participation de la famille, entre autres. Et vous allez voir, on va en parler un petit peu plus en détail. On va l'analyser dans notre after show disponible pour les abonnés Oui Monsieur sur Patreon. Mais ce qu'on apprend dans cette histoire-là, c'est que selon la famille puis selon les experts qui sont engagés pour l'émission, les données cellulaires suggèrent clairement qu'il n'était pas seul là, cette nuit-là là, lorsqu'il se déplaçait. Il y a plusieurs raisons. Le fait, justement, on en a parlé un petit peu, le fait que, bon, il a attendu 7 minutes à un endroit dans un genre de terrain vague, un peu dans la ville. Ça se peut que pendant ces 7 minutes-là, il ait rencontré quelqu'un qui l'ait amené par la suite dans le boisé et tout ça. Et le fait qu'il y a eu justement la handshake, là, la connexion avec un autre téléphone vers 1h du matin, ça aussi, selon eux, ben, ça prouve qu'il n'était pas seul, qu'il était accompagné de quelqu'un même très près. Là. Et pour clarifier un peu la chose, un handshake, c'est vraiment lorsque deux téléphones échangent du data, mais c'est pas forcément une photo qu'on a transigée. Des fois, c'est juste une tentative de connexion, par exemple, au réseau du téléphone ou quelque chose comme ça. Là.
Exact. Le handshake, c'est un protocole, en fait, de communication qui est une poignée de main, là, handshake. Là. Puis c'est vraiment deux ordinateurs, deux appareils qui se parlent ensemble. Puis c'est un protocole qui fait juste vraiment... simplifier la communication entre les deux. Puis comme tu dis, ça peut être vraiment plusieurs choses, dont peut-être un partage de connexion. On sait maintenant, nos téléphones peuvent devenir des petits routers là, pour partager la connexion. Là. Fait que c'est sûrement quelque chose du genre. Là.
Et puis c'est un peu les dernières infos qu'on a eues. C'est-à-dire que selon ces preuves-là, malgré le fait que les policiers concluent selon eux à un accident, ils seraient tombés de la falaise en allant voir le phare et ils seraient sans doute morts noyés.
Oui, oui.
La famille et les experts et même l'animatrice de cette émission-là est vraiment à l'opposé de cette théorie-là.
Oui, oui, absolument. En fait, je trouve ça toujours étrange que les policiers, souvent dans les histoires, c'est pas la première fois qu'ils classifient très rapidement, souvent, on dirait par la théorie la plus facile, oui. Je trouve. On dirait que l'excuse que c'est qu'ils révèlent pas des infos pour l'enquête, j'ai l'impression que des fois, ils s'en servent aussi comme protection parce qu'ils ont rien d'autre. Mm-hmm. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là, mais souvent, j'ai ce feeling-là. Puis là, t'as d'autres experts, justement. Tu sais, l'expert en cybersécurité, là, c'est pas n'importe qui, là. C'est un gars qui a une vingtaine d'années d'expérience, qui a travaillé, je pense, pour le gouvernement américain, pour plein de trucs. Puis lui, par ses analyses, en plus du détective privé, ont des conclusions totalement à l'opposé. Donc, tu sais, ils peuvent pas être complètement dans le champ. Mais en même temps, ce qu'ils ont amené, je sais que ça a servi aux policiers. T'sais, fait que les policiers étaient quand même à l'écoute de ça. Là.
Ben oui, c'est clair. Ben, parlons justement des théories, t'sais, parce que c'est un peu les dernières infos qu'on a.
Oui.
On vous suggère d'ailleurs d'aller voir le site dédié aux recherches de Théo. C'est lookingfortheo.com. Donc, looking for, le chiffre 4, Theo.com. Et vous allez voir, vous allez trouver plein d'informations. Puis si vous désirez vous impliquer, ou si même vous êtes en Australie, dans cette région-là, vous voulez d'une certaine façon vous impliquer, eh bien, vous allez trouver tout ce qu'il faut sur ce site-là. En fait, il y a plusieurs questions dans cette histoire-là. Non seulement est-ce que Théo était seul, mais pourquoi est-ce qu'il se dirigeait comme ça à l'opposé de son auberge? Ça, c'est un peu le plus grand mystère. T'sais, on en a parlé quelques fois. Sam, toi, tu disais que parfois, tu croyais peut-être pas au bug de Google Maps, mais...
À l'erreur. T'sais, souvent, moi, Google Maps, je l'utilise beaucoup. Puis des fois, on marchait à pied. Puis je trouve que quand on marche avec le GPS, je trouve toujours que la direction qui nous indique n'est pas claire. Puis souvent, j'ai tendance à aller toujours dans du mauvais sens. Par contre, on s'en rend compte rapidement. Là, tu vois ton petit bonhomme qui se déplace, puis là, tu vois qu'il n'est plus sur tes pointillés. Et là, tu reviens sur tes pas. Mais par défaut, on dirait que je prends jamais la bonne direction avec Google Maps. C'est pour ça qu'au départ, je me suis dit, c'est juste trompé de sens.
Ouais.
Mais le fait que continuer, c'est soit qu'il a voulu explorer tant qu'à être sorti du bar, puis être toute seule, puis être un peu chaud d'ail. Là. Mais en même temps, le fait qu'il n'est jamais revenu... tu sais, le seul moment... Corrige-moi si je me trompe, ce qu'il a vraiment décidé de revenir à son hôtel, c'est quand il a escaladé le truc. Puis qu'il a
quand il a monté dans le camp.
Oui, exact. Puis il a fait face à une sorte de cul-de-sac, si on veut.
Oui.
Parce que me semble, dans les autres tentatives de déplacement, c'était jamais en fonction de se retourner à l'hôtel. Donc ça,
exact.
C'est bizarre aussi. Là.
Oui, tu sais, comme si... On en parlait tout à l'heure, avant l'enregistrement, on échangeait nos théories, puis moi aussi, tu sais, je me disais en même temps, est-ce que ça se peut qu'il gardait tout le temps son itinéraire, mais il était ouvert à l'exploration, c'est-à-dire que peut-être qu'il suivait une personne, mais il voulait toujours en backup, tu sais, garder son Google Maps activé vers l'auberge, tu sais, ou je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se met en cache au cas où tu perds ta connexion.
Tu peux enregistrer ta map. Là.
Ça, oui.
Ça, ouais, tu peux enregistrer ton parcours. Je sais pas. Je pense T'sais, pas
est-ce,
qu'il ait fait
est-ce
ça.
Est-ce qu'il essayait de se dire, je vais aller vers la plage, je vais aller explorer, ou peut-être qu'il y a eu vent, qu'il y avait une fête sur la plage, puis il voulait y aller, mais il se disait toujours, je vais toujours garder mon truc pour savoir je suis à combien de temps de mon auberge.
Ouais, peut-être. Puis dans les communications, il n'y a pas eu... Dans le fond, parce que là, je reviens à la fille rencontrée dans le bar, tu sais... Il semble pas non plus avoir eu de communication avec cette personne-là. Parce que moi, on dirait que même quand j'écoutais le Under Investigation, on dirait que moi, cette théorie-là de quelqu'un, d'une femme, mais souvent, si tu la trouves séduisante, elle dit « viens avec moi sur la plage, on va avoir du fun, je vais nous trouver quelque chose. » Des fois, c'est il y a 18 ans, là, il est en voyage... C'est peut-être juste quelque chose de banal comme ça. Moi, on dirait que Au départ, je m'accrochais beaucoup à cette théorie-là, qui était même avec une, mais même deux personnes. On dirait que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas seulement une personne, mais peut-être deux au fil du temps à laquelle il a pu croiser. Là. Mais on dirait que j'ai l'impression qu'il y a une fille en arrière de ça. Je ne sais pas pourquoi. Là. Il y a quelque chose qui est mon instinct. J'ai peut-être tort, là, mais j'ai l'impression que c'est peut-être ça. Il y a peut-être quelque chose à travers ça là, qui l'a peut-être motivé à prendre tout ce chemin-là. Là.
Ça se peut, écoute. Ben, moi, de mon côté, moi aussi, je penche vers la théorie qu'il n'était pas seul. T'sais, selon moi, je crois un peu à ce que les experts proposaient, comme quoi il a peut-être rencontré quelqu'un à l'endroit où il y avait la dalle de béton. Je ne sais pas si c'est une fille
c'est
ou
ça.
Un garçon,
oui,
mais
c'est ça, on sait pas,
oui. Je sais que le mot se passe assez vite auprès des backpackers, des visiteurs, lorsqu'il y a un feu ou un party qui s'organise sur la plage. Il y a peut-être quelqu'un qui lui dit « Hey, est-ce que tu me suis? » Tout ça. Par la suite... l'hypothèse des policiers, c'est une bonne question parce que s'il était tombé à l'eau, en fait, probablement que son téléphone serait mort avant le lendemain à 13h.
Exact.
Je sais pas combien de temps ça peut survivre dans l'eau, mais là, on parle quand même d'un eau océanique
salée,
qui est très froide. Hein? Il faisait froid cette journée-là. On parle de plus de 12 heures, sans doute, dans l'eau.
Je pense pas que ça dure aussi longtemps que ça.
Ou même dans le sable. Ouais. C'est un peu poussé comme théorie, je trouve, là. Sachant toutes les données numériques qui sont là, tu sais. Est-ce que ça se peut qu'il soit tombé après qu'il ait consulté YouTube et tout ça, puis que quelqu'un d'autre ait gardé son sel pendant un certain temps, tu sais, puis que le sel se soit éteint le lendemain, la personne n'a jamais été capable de le débloquer ou quelque chose comme ça, tu sais. Puis qu'il a été justement proie à quelqu'un de mal intentionné, en fait. Là.
Oui. Ben moi, je ne l'évacue pas à 100%, hein, le fait qu'il est peut-être tombé de la falaise ou que quelqu'un l'a poussé en bas de la falaise et qu'il a gardé son téléphone ou peu importe. Ça non plus, vu qu'on n'a pas retrouvé le corps ou quoi que ce soit, c'est pas une théorie qui est farfelue non plus. Là.
Non, c'est clair. Mais est-ce que tu crois que ça se pouvait qu'il soit ivre ou même drogué au point de pas savoir comment suivre Google Maps à ce point-là, tu sais, parce que il y a bien des gens qui peuvent dire ah ben il était intoxiqué tout ça parce que je peux le croire aussi, tu sais, même si la famille dit qu'il est pas du genre à prendre la drogue, ben tu sais là t'es dans un contexte spécial, t'es en voyage, les gens que tu rencontres tu vas peut-être jamais les revoir, donc ça se peut que tu fasses la fête un petit peu plus loin. Je dis pas du tout que c'était le cas, là. Je veux pas porter des mauvaises intentions à Théo, mais ça se peut, tu sais, qu'il ait décidé, mais c'est que même qu'il ait décidé d'en prendre, mais c'est que même à ça pour...
Tu ne viens pas, si, ben ça pourrait dépendre de ce qu'il prend, mais tu ne perds pas la tête puis le fait qu'il recherchait tout le temps, à vraiment pas voir la direction dans laquelle tu vas, ça, on dirait que j'y crois pas, mais j'y crois qu'il pouvait être altéré par autre chose que l'alcool. Hein. Ça peut être des amphétamines ou quoi que ce soit, ça te tient réveillé. Parce que on le sait pas, puis ça peut être... d'autres choses. Il s'est peut-être fait mettre quelque chose dans son verre. Moi aussi, j'ai pensé ça dans le bar aussi, mais il semblait... Ben, c'est parce qu'on a 5 secondes, on dit ça. On a juste 5 secondes de caméra, mais il semblait pas amoché par la drogue. Fait qu'on dirait que...
Non.
Je le sais pas. Peut-être que la drogue a fait effet plus tard aussi, dans le sens que s'il l'a consommé vers le moment ou un petit peu avant qu'il ait été expulsé, le temps que ça fasse effet, il y a vraiment plusieurs scénarios possibles, mais ça aussi, j'ai l'impression que ça fait partie des variables dans toute cette équation-là.
Puis, sachant qu'on n'a toujours pas trouvé de corps, ben il y a quand même une hypothèse qu'il soit encore vivant malgré tout.
Oui.
À quelque part, ça fait partie des possibilités aussi.
Oui, absolument. On dirait que j'y crois pas. Puis justement, dans Under Investigation, son parrain, il disait, ça me fait drôle de parler de lui au passé, parce que je pense qu'il ne doit pas avoir encore été au deuil à 100%, tant que tu n'as pas de réponse. Ça m'avait beaucoup touché, justement. Puis, un peu comme tu dis, je pense qu'eux, c'est normal, là, mais ils ont encore espoir qu'ils soient vivants.
Oui. Puis, shout-out à eux, hein. Shout-out à la famille, à la cousine Lisa, à JP aussi, parce que l'air de rien, en créant leur site web pour Théo, ils ont réussi à faire retrouver les ossements de Théa Liddle. Ouais. Fait qu'ils ont quand même résolu la disparition d'une femme arrivée, survenue quelques semaines plus tard. Ouais. Donc, c'est quand même un coup de maître. Donc, faut pas minimiser la communauté internaute, je crois, quand on travaille sur une disparition comme ça. Je pense que ça montre aussi que c'est pas juste les enquêteurs, d'une certaine façon, qui peuvent faire une enquête. Officiellement, oui, c'est important d'être transparent, c'est important de transmettre les données parce qu'ils ont, ils ont plus de moyens que des quidam. Mais il y a quand même un bon bout de chemin qui est faisable du côté d'Internet. Puis, ça veut pas dire que, justement, les enquêteurs officiels n'ont pas le monopole de la résolution de crimes.
Ben donc,
ça peut arriver à tout le monde. Donc, un gros shout-out à la famille pour ça. Puis maintenant, chers distordus, c'est à vous de nous dire qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là. Vous pouvez le faire un peu partout sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, sur Facebook, on est facile à trouver. Il y a le groupe de discussion sur Facebook aussi que vous pouvez rejoindre pour pousser un petit peu plus en profondeur cette histoire-là. On est bien curieux de savoir ce que vous en pensez. On est sur YouTube, on est sur Twitter aussi. On vous rappelle que Distorsion, c'est une création de moi-même, Émile Gauthier et Sébastien Lévesque à mes côtés. Le montage est d'André Beaupré. Aussi, la musique d'interlude, la musique d'ambiance de cet épisode-ci, c'est une création de RB. Vous irez voir, il est partout sur Spotify, Bandcamp et SoundCloud. Et on n'a pas le choix de terminer en remerciant nos chers membres Patreon. D'ailleurs, vous allez voir, pour l'after show de cet épisode-ci, on va reparler un petit peu plus en détail de l'épisode de Under Investigation. Et on va parler aussi de d'autres cas où les données cellulaires, mais pas les données cellulaires, mais les données des applications Facebook, WhatsApp ont été mises en cause dans certaines enquêtes. Donc, ça va être très intéressant.
Oui.
Donc, un gros shout-out à Alain S, Daniel L, Yann D, Marina G et Jen Noodle.
Et je fais un high-five à Maeva C, Martine P, Vincent W, Julien M et David L. Merci.
Beaucoup d'amour à Denise L, Mélina C, Angéline L, Radia et Guy S.
Sans oublier Richard L, Lily, Nectarat, Dave G et Marie D.
Et Seb, aurais-tu un mot de la fin pour le début de cette saison 7?
Lorsque vous partez en voyage, assurez-vous de taguer Distorsion sur toutes vos photos de vacances pour qu'on vous retrouve au cas où.
Oh oui.
On sait jamais.